D'habitude, quand on regarde un plan de construction pour un bâtiment, on s'attend à un truc, enfin, hyper clair.
Ouais, de l'ingénierie pure, quoi. Une ligne, c'est un mur.
C'est ça. Une ligne droite représente un mur, un petit carré, c'est une fenêtre, c'est direct, c'est fonctionnel, et on s'y fie aveuglément pour bâtir.
Complètement.
Mais là, quand on se penche sur les anciens textes historiques de l'Ancien Testament, c'est comme si on tombait sur un plan d'architecture complètement fou. L'architecte a genre griffonné partout par-dessus, les murs ont l'air de bouger, et on réalise vite qu'on est face à un labyrinthe historique hyper complexe.
Et c'est exactement ce vertige-là qu'on va aborder aujourd'hui.
Voilà. Aujourd'hui, on plonge dans les notes fascinantes du docteur Robert Van Wye, plus précisément son cours magistral numéro 25 sur l'histoire de l'Ancien Testament. Et l'idée, c'est pas de faire un simple cours de catéchisme.
Non, surtout pas.
Notre mission pour cette exploration approfondie, c'est vraiment de comprendre comment on peut lire, interpréter et surtout tirer un sens véritable de ces récits historiques bruts. On va essayer de voir pourquoi l'histoire non censurée, bah c'est le fondement même de la croyance. Alors, rentrons dans le vif du sujet.
Allons-y.
Le docteur Van Wye s'attaque tout de suite à des figures légendaires, comme Abraham, par exemple. Et ce qui m'a vraiment frappé dans ces sources, c'est que le texte d'origine cherche pas du tout à en faire un héros lisse ou intouchable. C'est même tout l'inverse, en fait.
Et c'est un point hyper important que beaucoup de lecteurs modernes ont du mal à capter, je trouve. Naturellement, on a tendance à vouloir purifier un peu les fondateurs de croyances, on veut en faire des modèles de vertu parfaits.
Des super-héros sans défaut, quoi.
Exactement. Mais les documents qu'on analyse aujourd'hui prouvent que le récit biblique fait l'opposé. Il expose vraiment les failles énormes de ces personnages, en pleine lumière. Et avant même de chercher une quelconque leçon théologique, il faut accepter de regarder cette rudesse historique en face.
Ouais, la rudesse des faits bruts. Et pour illustrer ça, les notes s'attardent pas mal sur les chapitres 16 et 17 de la Genèse. On y trouve une situation familiale incroyablement tendue.
C'est le moins qu'on puisse dire, oui.
Sarah, la femme d'Abraham, est stérile depuis 10 ans. Du coup, la fameuse promesse divine d'une grande descendance, bah, elle a l'air complètement au point mort. Alors Sarah prend une décision radicale.
Très pragmatique pour l'époque, d'ailleurs.
Ouais, voilà, elle donne sa servante égyptienne, Agar, à Abraham pour qu'il puisse avoir un enfant. Techniquement, ça marche, Agar tombe enceinte d'Ismaël. Mais humainement parlant, c'est une catastrophe absolue.
Un vrai désastre.
Un chaos relationnel explose. Agar commence à mépriser Sarah et en retour, Sarah la maltraite tellement qu'Agar finit par s'enfuir dans le désert. Enfin, c'est un drame familial d'une violence psychologique inouïe.
Ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont l'autorité divine réagit face à tout ce chaos provoqué par, disons-le, l'impatience humaine. Parce que cet enfant Ismaël, né d'une tentative un peu désespérée de forcer le destin, bah, il reçoit quand même une bénédiction.
Ah oui, le texte dit qu'il engendrera 12 princes, une grande nation, c'est ça, hein?
C'est ça. Mais, et c'est là que le docteur Van Wye cite le théologien Gerhardus Voss, il y a un point de rupture crucial. Ismaël n'est pas l'enfant de la promesse.
D'accord.
Le chapitre 17 est hyper clair là-dessus. La lignée de l'alliance, elle doit impérativement passer par Isaac, l'enfant que Sarah va porter. Voss explique en fait qu'Abraham n'était tout simplement pas autorisé à accomplir la promesse par ses propres forces ou sa propre ingéniosité.
Du coup, ça me fait penser à une analogie moderne. Ces gens. Imaginez qu'Abraham et Sarah essayent de pirater un logiciel.
Ah, un piratage, carrément.
Bah oui. Ils voient que le programme officiel met des années à charger, ils s'impatientent, alors ils utilisent un raccourci, un petit bricolage clandestin pour avoir le résultat plus vite. Sauf que le développeur débarque et dit « Non, on efface ça, on revient à la mise à jour officielle et sécurisée. »
C'est une super image. Mais il y a une nuance majeure qu'il faut ajouter à votre analogie du piratage.
Je vous écoute.
Un développeur informatique normal, il s'en fout un peu de la méthode tant que le programme fonctionne à la fin, non?
En général, oui, tant que le résultat est là.
Eh bien, ici, le développeur, pour garder votre image, il exige que le processus lui-même échappe au contrôle humain. C'est ce que les sources appellent un surnaturalisme strict. L'effort humain ne doit pas triompher.
C'est Dieu qui doit avoir tout le mérite, en gros.
Voilà. Et les conséquences de cette tentative humaine de forcer le destin, elles s'inscrivent de façon permanente dans la réalité géopolitique du Moyen-Orient antique.
C'est vrai que Van Wye s'attarde beaucoup sur le réseau généalogique hallucinant qui sort de tout ça. On a les descendants d'Ismaël, les Madianites qui viennent d'une autre épouse, Kétoura.
Ouais, et les Ammonites, les Moabites, issus de Lot, le neveu.
Exactement. Ça forme tout un réseau de peuples cousins autour des Israélites. Et en lisant ça, j'ai eu l'impression que le texte balance tous ces détails super arides pour nous forcer à admettre un truc. On n'est pas dans un petit conte de fées suspendu hors du temps. C'est l'histoire de nations bien réelles.
Vous mettez le doigt sur l'intention première du texte. L'ancrage historique est totalement délibéré. Mais du coup, ça nous amène directement au grand dilemme soulevé par le cours.
C'est-à-dire ?
L'histoire est brute, géopolitiquement complexe, pleine de défauts. Mais aujourd'hui, pour la personne qui lit ça chez elle ou qui doit faire un sermon le dimanche matin, on en fait quoi, oh ? Comment on fait le pont entre ces disputes de nomades antiques et notre époque moderne, sans dénaturer le texte,
hein ? Et c'est là que je bloque toujours en tant que lectrice moderne. Je me dis, ok, super, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Le cours utilise d'ailleurs un cas d'étude génial pour ce défi de traduction culturelle. C'est le chapitre 24 de la Genèse.
Ah, l'histoire de la recherche d'une épouse.
C'est ça. Abraham est très vieux, il envoie son serviteur en Mésopotamie pour trouver une femme pour Isaac, histoire d'éviter les Cananéennes. Le serviteur arrive près d'un puits, il est épuisé et il se met à prier pour un signe. Il demande en gros que la fille qui me donnera à boire à moi et à mes chameaux soit la bonne.
Et là, Rebecca arrive.
Bam, Rebecca arrive, elle fait exactement ça, elle abreuve tout le monde. C'est hyper cinématographique, presque romantique. Mais bon, à part raconter une belle histoire au coin du feu, qu'est-ce qu'on est censé en tirer aujourd'hui ?
C'est la grande question. Raconter ça de façon dramatique, c'est facile, mais ça suffit pas. Le docteur Vanhoey montre comment les érudits se sont cassés les dents là-dessus pendant des siècles. Et la première tentative historique qu'il aborde, qui était hyper populaire dans l'Église primitive, c'est la méthode allégorique.
Attendez, j'ai lu cette partie des notes et je veux être sûre de bien piger, parce que ça m'a paru complètement surréaliste. Le principe, c'est de gommer les faits historiques pour transformer chaque petit détail en symbole spirituel.
C'est exactement ça.
Non mais il disait sérieusement qu'Isaac représentait le Christ et que Rebecca c'était l'Église.
Oui, oui, très sérieusement. Mais il faut se remettre dans le contexte philosophique de l'époque. Pour pas mal de penseurs de l'Église primitive, l'histoire brute de l'Ancien Testament s'était vue comme trop charnelle.
Trop scandaleux peut-être.
Trop scandaleux ou juste trop banal, trop humain. Donc, pour élever un peu le niveau et donner une aura spirituelle au texte, il se disait qu'il fallait regarder à travers l'histoire, comme si l'histoire n'était qu'une coquille vide qui cachait des vérités cosmiques.
Mais c'est fou, ça va tellement loin, hein. Dans les notes, on voit que le serviteur devient la figure du prédicateur. Les bijoux qu'on offre à Rebecca, hop, c'est la patience et la persévérance. Et le clou du spectacle, vraiment, ce sont les chameaux. C'est à mourir de rire.
Ah, le fameux symbole des chameaux.
Mais oui. Selon l'humeur de l'interprète, ça change du tout au tout. Un coup, les chameaux représentent les fidèles ignorants qui ont soif d'enseignement. Un autre coup, vu que les chameaux boivent des litres et des litres d'eau, bim, ça représente la loi qui n'est jamais satisfaite. Et quand Rebecca descend de son chameau, ça voudrait dire que l'Église abandonne le péché. C'est comme interpréter des rêves, non ? On peut faire dire littéralement n'importe quoi au texte.
C'est la critique majeure de Vanhoey. Ce que vous décrivez là, ça porte un nom technique, c'est de l'exégèse et c'est l'opposé de l'exégèse.
Faut vraiment qu'on explique la différence parce que ce terme revient souvent dans les sources.
Bien sûr. L'exégèse, c'est l'acte d'extraire le sens qui est déjà présent dans le texte. On étudie le contexte historique, la grammaire, l'intention de l'auteur. L'exégèse, à l'inverse, c'est injecter ses propres idées.
On impose sa vision, quoi.
Voilà, on impose ces fantasmes spirituels dans le texte. Avec l'allégorie, l'imagination du lecteur remplace carrément l'auteur. Mais attention, Vanhoey note une exception très importante.
Laquelle ?
La méthode allégorique est tout à fait valide, mais seulement quand le texte se présente lui-même comme une allégorie explicite. Par exemple, dans Ésaïe chapitre 5, la vigne représente Israël. Le texte le dit noir sur blanc. Mais si on plaque ça sur un récit historique concret comme Genèse 24, on détruit l'histoire.
Bah oui, les faits n'ont plus aucune importance. Alors, face à ces dérives complètement perchées de l'allégorie, je comprends mieux pourquoi un autre grand débat a émergé. Les sources parlent beaucoup d'un mouvement en Hollande dans les années 40 et 50.
Tout à fait. C'est là qu'est née la méthode dite exemplaire.
La méthode exemplaire. Et là, on cherche plus du tout de symboles mystiques. C'est devenu une sorte de guide de développement personnel antique, c'est ça, hein ?
Le changement de cap est total. On ne spiritualise plus, on moralise. Les personnages deviennent juste des exemples à suivre ou des contre-exemples à fuir.
C'est là que ça devient vraiment intéressant et un peu problématique. Si on prend cette méthode exemplaire et qu'on l'applique à Genèse 24, on se retrouve avec des règles de vie super pragmatiques. Genre, Abraham voulait pas d'une cananéenne, donc leçon numéro 1, ne vous mariez pas avec des non-croyants.
Ouais, c'est l'idée.
Le serviteur a prié, donc leçon 2, prier pour trouver l'âme sœur. Et puis, Rebecca a donné à boire au chameau, donc leçon 3, soyez prêt à servir avec le sourire. Sur le papier, pour un petit discours de mariage, c'est sympa. Mais c'est tellement arbitraire.
Complètement.
Je veux dire, est-ce qu'un jeune célibataire aujourd'hui devrait sérieusement se planter devant la fontanao de son bourreau, prier pour avoir un signe et se dire que le premier collègue qui lui propose de remplir sa gourde, c'est l'élu envoyé par le ciel?
C'est une excellente image. Votre exemple de la fontaine à eau, ça montre parfaitement l'absurdité de cette méthode si on l'applique aveuglément. Et le docteur Van Hooy met le doigt sur le problème central. Cette approche est beaucoup trop anthropocentrée.
Anthropocentrée, donc centrée uniquement sur l'humain et sa petite morale.
Exactement. Le danger de ramener tout à l'humain, c'est de transformer la Bible en un simple catalogue de moralisme. Et d'ailleurs, sur le plan strictement théologique, exiger un signe divin aujourd'hui comme l'a fait le serviteur, c'est considéré comme une énorme erreur d'interprétation.
Wait, pourquoi ce serait présomptueux de chercher un signe aujourd'hui, alors que pour le serviteur d'Abraham, ça a super bien marché?
Parce que ça ignore complètement un concept clé de la théologie réformée que Van Hooy explique, la clôture du canon biblique.
C'est-à-dire?
À l'époque des patriarches, l'histoire de la rédemption était en train de s'écrire, en temps réel. Donc la révélation divine, spéciale, comme un miracle ou un signe précis à un puits, ça accompagnait activement ces événements fondateurs. Mais aujourd'hui, cette histoire fondatrice est terminée, elle est scellée dans le canon biblique clos.
Ah, je vois, donc la méthode a changé.
C'est ça. Chercher des signes directs aujourd'hui, c'est agir comme si la révélation était toujours ouverte. C'est présomptueux, selon cette théologie. Et le problème de la méthode exemplaire, en isolant les petites histoires, c'est qu'elle fragmente le texte et elle oublie le véritable acteur principal.
Et c'est là qu'on arrive vraiment au cœur du message de Van Hooy. Si tout transformé en métaphore, c'est hors sol, et si la méthode exemplaire, c'est trop réducteur, c'est quoi la bonne approche?
C'est là qu'intervient la perspective historico-rédemptrice.
La fameuse perspective historico-rédemptrice. Si on relie ça à une vision plus globale, c'est la seule façon de respecter le texte. Il faut comprendre que le héros de l'histoire, ce n'est pas Abraham, ce n'est pas le serviteur, ni Rebecca.
Le héros, c'est Dieu. Voilà. Le personnage principal, c'est Dieu. Cette méthode oblige à replacer chaque petit événement dans la grande chronologie de l'histoire, avec un grand H.
Et les sources nous ramènent d'ailleurs au tout début, à Genèse 3:15. La promesse que la descendance de la femme écraserait la tête du serpent. Et en lisant le cours, j'ai eu un déclic. Tout le reste de la Bible, c'est juste l'exécution hyper complexe de cette unique promesse menant au Christ, malgré tous les défauts des humains impliqués.
C'est exactement l'idée de Van Hooy.
Donc si on reprend Genèse 24, le puits, les chameaux, c'est pas du tout un manuel sur comment trouver l'amour. C'est le récit de Dieu qui orchestre souverainement des bétails du quotidien pour préserver la lignée exacte de la promesse. Parce que pas de mariage avec Rebecca, pas de Jacob. Pas de Jacob, pas de tribu de Juda. Et la chaîne est brisée.
L'impact de ce changement de focale pour le lecteur est juste colossal. Pensez-y deux secondes. Si on n'utilise que la méthode exemplaire, on lit ces textes comme on lirait les fables de La Fontaine, quoi.
Genre la morale de l'histoire?
Ouais. Le lièvre et la tortue, c'est sympa, ça nous apprend la persévérance. Mais il n'y a personne qui base sa vision du monde ou son espoir face à la mort sur le fait qu'une tortue a réellement couru contre un lièvre dans l'Antiquité.
C'est clair.
Par contre, savoir que la foi repose sur une véritable histoire, où la divinité orchestre concrètement les choses à travers le chaos humain, ça offre un réconfort et une encre beaucoup plus profond que des petites leçons de morale décousues.
Mais alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour notre quotidien ? Est-ce qu'on doit jeter toute leçon morale par la fenêtre? Je veux dire, on n'a plus le droit de s'inspirer du courage de David face à Goliath ou des doutes de Thomas?
Alors non, le docteur Van Hooy est très nuancé. Il dit bien qu'il n'y a pas de contradiction inévitable entre tirer un exemple moral et garder la perspective historico-rédemptrice.
Ouf, on est sauvés.
L'erreur fatale, c'est l'isolation. On peut tout à fait utiliser l'apôtre Thomas pour illustrer la nature du doute humain, comme le fait l'épître de Jacques d'ailleurs. Mais il faut impérativement rappeler pourquoi ce doute de Thomas est important. Il s'inscrit dans l'événement historique de la résurrection.
Donc l'exemple moral est bon, à condition qu'il reste accroché à sa fonction rédemptrice globale.
Exactement. Il faut garder l'intégrité de l'histoire globale.
Ce qui m'amène au dernier gros point de friction des notes. L'affrontement intellectuel final avec l'école de pensée de S.R. Driver, l'école de Wallhausen. C'est quoi cette école au juste ? Parce que ça a l'air d'être l'opposé total de tout ce qu'on vient de dire.
L'école de Wellhausen, c'est un courant critique du 19e siècle. En gros, ils analysent la Bible uniquement comme un assemblage de documents humains réécrits au fil du temps par des factions politiques. Et S.R. Driver poussait ça très loin. Il affirmait que la réalité historique des récits patriarcaux, bah on s'en fiche.
Attendez, on s'en fiche que ça se soit vraiment passé ?
Pour Driver, oui. Que Rebecca ait vraiment abreuvé les chameaux ou que ce soit un mythe populaire inventé des siècles plus tard, ça change rien à la beauté de la leçon. Soyez généreux, point barre.
Ah ouais ? Donc c'est la séparation absolue. Les faits sont peut-être faux, mais la morale est bonne.
C'est ça. Et le docteur Van Nooy rejette cette idée de la manière la plus ferme qui soit, en s'appuyant sur les sources. C'est vraiment la conclusion de notre analyse. La doctrine repose sur l'histoire, et non l'inverse.
Si ça s'est pas passé, tout s'effondre.
Exactement. La foi décrite ici n'est pas une philosophie abstraite, flottant dans les idées. Elle est ancrée dans le temps, l'espace, la géographie. Si ces événements ne sont que de belles fables, le fondement même s'écroule. D'ailleurs, quand Pierre ou Paul prêchaient aux foules au 1er siècle, ils ne racontaient pas de fables morales. Ils retraçaient des faits historiques vérifiables pour prouver l'intervention divine.
C'est vraiment fascinant. Si je résume notre voyage d'aujourd'hui avec les notes de Van Nooy. D'abord, on a vu qu'il fallait affronter l'histoire brute et les échecs impatients de l'humanité, comme le bricolage désastreux avec Agar.
Ouais.
Ensuite, on a vu comment l'homme a essayé de déformer le texte avec l'allégorie, ce grand mirage où chacun voit ce qu'il veut.
Les fameux chameaux.
Les fameux chameaux. Puis, d'autres ont essayé de réduire le texte à un petit guide de bonne conduite avec la méthode exemplaire. Et au final, on a compris que seule la perspective historico-rédemptrice donne le vrai sens. L'histoire construit la fondation d'une promesse beaucoup plus vaste.
Un résumé parfait. Refuser l'histoire, c'est perdre le message.
Et ça me pousse à une réflexion un peu provocatrice pour terminer. Vu à quel point le docteur Van Nooy insiste sur l'importance du grand récit historique pour donner du sens à des actions individuelles, je me dis que ça résonne vachement avec nous aujourd'hui. On est complètement obsédé par les leçons de vie rapides, les petites citations inspirantes sur les réseaux sociaux, totalement déconnectées de tout contexte ou de toute histoire globale.
C'est très vrai.
Et je me demande, à force de chercher des petites morales rapides, est-ce que ça ne nous empêche pas de comprendre le véritable sens de notre propre époque, de notre propre histoire ? C'est un peu comme si on avait le plan grandiose d'une cathédrale millénaire, hyper complexe, et qu'on l'utilisait juste pour vérifier si le mur de nos toilettes est bien droit. On passe complètement à côté du chef-d'œuvre, quoi.
Belle image pour conclure.
Merci de nous avoir suivis dans cette exploration approfondie. Gardez cette idée en tête et on se retrouve très vite pour décortiquer de nouvelles sources ensemble. À la prochaine!